Votre connexion internet est trop lente? Radio-Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net à votre service.
Comment résoudre les conflits intercommunautaires? C'est le thème que nous allons aborder dans quelques instants avec notre invité Kaka Katina, enseignant permanent à l'Université de la Paix, au Nord Kivu. Vous savez, les conflits intercommunautaires sont fréquents dans nos milieux et d'après les experts, ils sont dus généralement aux disputes autour des terres arables, il y a des conflits identitaires aussi, et ces conflits peuvent conduire à des tensions graves et qui peuvent dégénérer et causer des morts d'hommes si on n'arrive pas à les résoudre. Alors, comment procéder pour résoudre dans la paix les conflits intercommunautaires? Kaka Katina est enseignant permanent à l'Université de la Paix. Monsieur Kaka, bonjour.
Bonjour, bonjour Radio Okapi.
Voilà, nous parlons avec vous aujourd'hui de la résolution pacifique des conflits intercommunautaires. D'abord, quelles sont les causes de ces conflits?
Les causes de ces conflits dans notre province, merci d'abord à la Radio Okapi pour nous avoir invités à participer à cette émission d'une très grande envergure, parce que vous savez que dans notre province ici, ça fait plus de deux décennies que nous sommes en guerre. Il y a des conflits par-ci par-là, il y a des communautés qui ne collaborent pas correctement, et nous, nous avons essayé un peu de réfléchir par rapport aux sources des conflits dans notre province. Et nous nous sommes heurtés à un problème qui est d'abord la crise identitaire dans notre province du Nord Kivu. La crise identitaire dans notre province du Nord Kivu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les problèmes du Nord Kivu restent donc tout entiers. Toutes les fois, quelqu'un prend le pouvoir, qu'il soit politique, administratif, judiciaire ou même militaire, la première des choses à faire est de s'entourer des membres de sa communauté. On peut se poser la question de savoir pour quelles raisons. Pour quelles raisons? Peut-être pour se protéger contre les autres envers lesquels on n'a pas confiance, car ils ne sont pas de sa communauté. Peut-être pour bien travailler sur comment rendre les comptes aux autres communautés, peut-être parce que l'on peut bien s'entendre qu'avec les membres de sa communauté. Donc la source, déjà, ça commence à partir de ces différents éléments dont je viens de parler.
La crise identitaire, alors à part la crise identitaire, quelles sont les autres sources des conflits communautaires?
Ouais, les autres sources, nous en avons les autres sources, mais aussi on observe un clivage entre ce qui s'appelle groupe des sept dans notre province du Nord Kivu. Les groupes des sept, ça veut dire les autochtones qui sont les Nandé, les Kano, les Kumu, les Hunde, les Nyanga, les Tembo et les Mbuti, qui se disent autochtones. Et après ce groupe de sept, il y a aussi un groupe de deux, les groupes de Tutsi et Hutu. Les Tutsi et les Hutu. Cette conception idéologique divise actuellement les peuples dans cette partie du Nord, mais aussi du Sud Kivu.
Voilà, ce sont là. Mais souvent, on parle pas seulement du Nord et du Sud Kivu, on parle des conflits intercommunautaires en général à travers le pays. Et certains disent qu'il y a aussi les conflits autour des terres arables, chaque communauté cherche à contrôler les terres pour l'agriculture. Et c'est là occasion également des conflits.
Bien sûr que oui, parce que vous savez, il y a les physiocrates qui sont chapeautés par un certain François Quesnay, c'est un Français. Qu'est-ce qu'il dit? Lui dit que la première richesse de tout un peuple, c'est la terre d'abord. Alors lorsqu'un peuple a déjà cette idéologie de se rendre compte que pour que nous soyons riches, pour que nous soyons forts, pour que nous puissions nous imposer et confirmer notre présence, nous devons tout d'abord avoir la terre. Et surtout qu'ici chez nous, vous connaissez vraiment la terre, non seulement cette terre est fertile, mais nous en avons aussi en grande quantité. À travers cela aussi, la population et toutes les communautés qui préféreraient se retrouver dans la philosophie des physiocrates de François Quesnay préféreraient avoir une grande quantité et une grande portion de terre pour aussi se confirmer dans la communauté. Et c'est là aussi crée des troubles. Et surtout que vous savez, à partir des années 1994, lorsqu'il y a eu le problème de Magrivi au niveau de tout le territoire de Massissi, il y a la population qui s'était déplacée et cette population avait des terres qui appartenaient à cette population. Mais à son retour, la population s'était rendue compte que les terres qui lui appartenaient étaient déjà confiées à d'autres personnes. Parce qu'elle avait fui et tout et tout et tout. Mais au retour, il y a d'autres populations qui avaient déjà piqué les terres qui ne leur appartenaient pas. Et cela aussi avait créé des problèmes, des crises dans notre Nord Kivu.
Voilà. Et comment, quels sont les éléments qui peuvent, par exemple, peuvent permettre de détecter qu'il y a des conflits latents ou il y a des conflits qui sont en train de prendre forme entre deux communautés, par exemple?
Bon, je m'excuse un peu Radio Okapi. Je vais un peu reculer en arrière. Hein. Il y a dans le discours d'investiture d'ici décembre de notre président de la République, il avait dit ceci, hein. Pour les objectifs de la paix et de la consolidation de la paix dans notre nation, je consacrerai toute mon énergie à lutter contre l'intolérance et l'exclusion, qui ne font pas partie de nos mœurs et coutumes, mais qui sont souvent les germes des conflits. L'intolérance et l'exclusion. Si dans notre province, nous comprenons que nous pouvons nous tolérer mutuellement et que nous ne puissions pas nous exclure mutuellement, cela peut être aussi un remède parmi tant d'autres qui peuvent permettre que nous puissions avoir la paix dans notre province du Nord Kivu.
Alors, quand vous parlez de l'intolérance et de l'exclusion, pouvez-vous donner des exemples précis, oui, précis de la vie de tous les jours qui vont nous permettre de
oui,
mieux comprendre?
Sûr. L'intolérance, ça veut dire que nous ne sommes pas à mesure de nous tolérer entre nous. Vous savez, dans l'esprit de Chirivin, de Okapi, ça fait en sorte que nous puissions commettre à tout moment de bavure, à tout moment que nous puissions faire des rêves. Maintenant, il y a certaines personnes qui pensent que lorsque vous commettez des erreurs, ça devient directement un cheval de bataille pour elles. Donc, comme vous faites des bavures, vous êtes peut-être mal comporté au travail, et au lieu de regarder la personne qui a commis la bavure en question ou l'erreur, on regarde directement sa communauté. Les gens de telle communauté se comportent toujours de cette façon-là. Et ça crée directement un problème. Donc, on n'est pas en mesure de se tolérer mutuellement. Et l'exclusion, c'est ce que j'ai dit au début. J'ai dit que lorsqu'on a pris le pouvoir quelque part, que ce soit politique, administratif ou militaire, on cherche d'abord à exclure les autres. Il faut les mettre à côté pour qu'on travaille uniquement avec les membres de sa communauté. Et cela pose aussi les problèmes de l'exclusion.
Et pourquoi ces conflits, ces conflits dégénèrent toujours, on en arrive à des affrontements armés, vous allez entendre que quelque part on a tué les gens de telles communautés à la machette, les cas de Moutaroulé par exemple et bien d'autres endroits, et qu'est-ce qui fait qu'on en arrive jusque là, c'est parce que ces conflits ont été mal gérés?
Bon, bien sûr que oui, parce que vous savez, il y a d'abord conflit en général, pourquoi? D'abord la définition étymologique du conflit, on peut parvenir à un conflit lorsqu'il y a deux ou trois personnes qui cherchent à atteindre un seul objectif, qui ne peut être atteint que par une personne parmi les deux. Alors lorsque c'est la première personne qui atteint l'objectif, et que la deuxième personne n'a pas atteint cet objectif, ça crée directement un conflit. Alors, si nous voulons résoudre les conflits, nous devons d'abord comprendre quelles sont les racines de ces conflits-là. Parce qu'un conflit, nous pouvons le gérer immédiatement, mais les causes sont lointaines peut-être. Parce que la Deuxième Guerre mondiale de 1940-45, si vous essayez un peu d'étudier les sources ou les causes lointaines de cette Deuxième Guerre mondiale, vous pouvez les retrouver peut-être dans les années 1930, 10 ans avant que la guerre ne commence. Donc, si on n'a pas vraiment la tolérance, et on est en mesure de s'auto-exclure, on peut parvenir à un certain moment à créer des problèmes qui ne trouveront même pas de solution. Parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans, depuis 1993, avec la guerre de Maghrébi et les Katouko dans les territoires des Massis, Siwalika, les consorts. Les gens sont toujours en train d'être tués, les gens sont toujours en train d'être violés. Et c'est comme si nous sommes juste en train de regarder les feuilles, les fleurs des conflits. Mais nous ne regardons pas la racine. Si nous regardons la racine, qu'est-ce qui a fait en sorte que tout cela nous arrive et peut-être que nous pouvons aussi parvenir à trouver la solution au problème des conflits communautaires dans notre Nord Kivu.
Généralement, vous parlez de la racine, donc il faut pas traiter les conséquences, mais il faut rechercher ce qu'il y a à l'origine du problème. Alors, comment procéder, Kakatina? Vous êtes enseignant à l'Université de la Paix. Quand il y a, par exemple, des conflits intercommunautaires, comment arriver à mettre les deux communautés ensemble et résoudre à l'amiable le conflit?
Oui, bien sûr, parce que la résolution pacifique, c'est ce qui nous intéresse le plus. La résolution à travers les armes et consorts, ce ne sont pas vraiment des résolutions qui sont durables. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire que notre problème ici dans notre province, majeur d'ailleurs, c'est la crise identitaire. La crise identitaire, lorsque déjà c'est crise, et si nous parvenons tout simplement à apporter la thérapie à ce problème de la crise identitaire dans notre province, nous serons directement en train d'apporter la solution au problème de la crise de notre communauté. Parce que la racine, d'abord, vraiment, c'est ça. Si aujourd'hui, moi, je suis, par exemple, ministre provincial ou de l'économie, ou je ne sais pas, de la justice, je vais chercher d'abord à mettre dans mon cabinet seulement les personnes de ma communauté. Et ça, ce n'est pas une façon vraiment de faire correctement son travail. Parce que vous savez, des choses que vous êtes en train de travailler ou de gérer, tout ce qui appartenait ou tout ce qu'on appelle en termes juridiques, res publica, là, ce n'est pas une entreprise privée. C'est quelque chose qui appartient à toute la communauté et il faut que toute la communauté s'y retrouve. Et si nous voulons chercher à apporter des solutions à nos problèmes en pensant qu'il n'y a que des personnes qui sont autour de nous qui peuvent nous aider, nous sommes en train de nous tromper. Parce que, par exemple, si moi je suis un ouvrier, je peux facilement comprendre que lorsque je travaille, par exemple, dans mon cabinet, je peux avoir un directeur de cabinet Kano ou Nyanga, et les choses peuvent toujours aller de l'avant. Donc, c'est comme ça qu'on peut procéder, et à travers cela, on peut facilement se rendre compte, parce que les sources, les causes des conflits, nous les connaissons. La crise identitaire dans notre province ici, vraiment, elle est en train de débattre son plein.
Oui. Et à l'IDER,
c'est pourquoi nous disons même que la réalité est telle que celui qui réfléchit sur cette base, la base identitaire, se trompe à tous les coups. C'est d'ailleurs ce qui fait que lorsque les gens accèdent au pouvoir, tel que j'étais en train de le dire, ils font de leur mieux pour opprimer les autres. Et ces derniers, lorsqu'ils seront également aussi au pouvoir, ils feront de même pour prendre les revanches et les cycles continuera ainsi au point de rendre le Nord Kivu une terre sans paix. Vous voyez un peu comment est-ce que ça peut tourner en rond, on pense qu'on est en train d'apporter des solutions et pourtant le problème est toujours là.
Voilà, il n'y a pas que le Nord Kivu, il y a des conflits comme ça intercommunautaires entre telle communauté et telle autre à travers, un peu partout, à travers le pays. Nous avons un auditeur, nous a écrit l'IDER à Aliabo, il dit, comme chez nous ici à Fizi, il y a beaucoup de conflits entre les éleveurs Banyamulenge qui amènent leurs vaches dans les champs des cultivateurs Babembe, et puis voilà, et ça crée toujours des conflits. D'après lui, il faut éduquer, informer pour éviter les conflits entre les ethnies. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, et celui-là, lorsqu'il il donne son opinion comme ça, ne pensez pas qu'il n'a pas raison. Il a raison, monsieur Jody. Pourquoi je le dis? Parce que nous pensons que ce qu'il y a chez les voisins, c'est ce qui est meilleur. Et ne pensez pas que ce qui apporte leurs vaches pour que ces vaches puissent brouter dans les champs de leurs voisins, c'est tout simplement parce que ces gens-là qui ont des vaches ont manqué les herbes dans leur champ. Mais elles pensent que ce sont les herbes du voisin qui sont meilleures et pourtant chez eux aussi, ils en ont. Donc dans ce sens-là, quand vous ne voulez pas vraiment créer des problèmes avec les autres, essayez de comprendre que je n'aimerais pas faire aux autres ce que moi-même personnellement, je ne préférerais pas qu'on fasse pour moi. Donc quand vous amenez déjà vos vaches pour brouter dans les champs de votre voisin, mais vous pensez que votre voisin a planté, je ne sais pas si c'est haricots ou c'est maïs, c'est pour que vos vaches puissent venir brouter des herbes de là-bas. Il a fait cela parce que lui aussi est en train de chercher la survie. Donc si nous travaillons comme ça, en sachant que ce que je suis en train de faire pour voisin n'est pas tellement correct, et dans ce sens-là, nous serons directement en train de créer la pacification dans notre société indirectement.
John Kalunga nous appelle de Lubumbashi. Bonjour John. John Kalunga.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Moi, je veux parler que l'invité a parlé beaucoup de ce qui se passe dans le Kivu. Mais moi, je suis sur Katanga, je suis originaire du territoire de Congo. Il y a donc une sorte de conflit dans notre contrée là-bas. C'est dans le même village, seulement les gens presque des mêmes familles, parce que ce sont les fils des grands et des petits frères. Quand les autres se voient et ils sont nombreux, ils commencent à attaquer les autres parce que il y a la logique qui dit vous devez manger là où votre père avait travaillé, par exemple. Maintenant, quand on se sent, on est nombreux, on commence déjà à attaquer les autres, ou soit à les chercher les mâles, les faire des gris-gris, pour qu'ils puissent vraiment être exterminés pour occuper leur partie. Il y en a une autre source de conflit est implantée par les gens qui jugent le problème. Dès qu'il y a un cas qui survient, quand on va porter plainte, on va trancher mal le problème, alors les autres vont dire que bon, comme on a très mal tranché, nous allons nous venger, on va les attaquer seulement avec des machettes, comme ça, on va voir ce qui va arriver. Si nous avons raison, on va les tuer. Vous avez chaque fois des cas donc, les gens qui se coupent des machettes, de ceci, de cela. Une autre chose, ce sont les juges. Quand on les amène un problème comme ça, ils ont le problème. On les étranche comme ses doigts. Ils commencent d'abord, non, amenez d'abord 10 chaises. Amenez d'abord ceci, on amène ça. Après 3 mois, non, il faut ajouter 10 fidèles. Les gens vont se frotter, ils amènent 10 filles. Non, vous, comme vous n'amenez pas ça, il faut ajouter. Les autres vont donner beaucoup de richesses. On va leur donner la raison. Après, ça reste donc un fait qui ne termine pas, mais c'est Léo, vous allez voir que non, on a été le fait, mais à l'intérieur là-bas, ce n'est pas les conflits restent. D'autres, ce sont leurs membres de famille qui deviennent quelqu'un sur le plan national, homme politique. Alors les autres vont dire que comme l'autre est devenu député, maintenant nous devons gagner maintenant la partie des terres ici chez nous. On commence à attaquer les autres. Quand il y a un problème, on demande de l'argent, on téléphone là-bas, on envoie l'argent, soit ce sont les autres qui appellent les autorités locales ici pour donner la raison à leurs frères. Mais après un temps, c'est le conflit qui est là chaque jour, c'est comme une source de revenus pour ceux qui sont là pour juger et trancher des problèmes. Surtout quand on amène les autres administrateurs des territoires qui ne sont pas originaires du coin, qui sont là pour seulement leurs intérêts.
D'accord.
On prend l'argent, on en va construire ailleurs, c'est tout, ça reste comme ça, et ça reste.
Merci John Kalunga. Ismaël Mumpoy, vous êtes aussi à Lubumbashi. Bonjour.
Je dis Daniel Kachama, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Ismaël?
Ok, je comprends que la paix est un lot du peuple, mais cette question devait être très difficile pour en avoir. Nous vivons dans un pays où il y a beaucoup de tribus et de langues. Cela est souvent difficile quand on s'exprime, par exemple, dans un milieu à un autre. Cela suscite de la haine et de problèmes. Qu'est-ce que j'ai pu constater? Il se peut qu'il y a même le chef religieux, le chef politico. C'est-à-dire, chacun se range selon son coin. S'il veut maltraiter l'autre, c'est tel quand tu avais telle affaire ou tel problème. Mais à un certain moment, il y a toujours la surjection des affaires. À mon niveau, j'ai ici deux questions seulement posées à notre invité, de savoir à leur niveau, qu'est-ce qu'ils ont en train de faire, par exemple, à la difficulté linguistique, dialectique et économique. Et en plus de cela, qu'est-ce qu'ils sont en train de mener comme le développement du pays pour vivre les conflits internes ne puissent pas se soulever si souvent. Au lieu aussi de s'attaquer à une population locale, mais pourquoi s'ils ont l'indifférent avec soit le président de la République, l'Assemblée et les autres, ils ne courent pas à cela, ils attaquent seulement la population locale de leur entité. Merci beaucoup.
Bien, monsieur Kakakatina, vous avez la parole.
Oui.
Vous avez suivi les différentes interventions. John Kalunga nous dit qu'à Kongolo, donc il n'y a pas que le Nord Kivu, à Kongolo, Katanga, il y a des problèmes entre différentes communautés et quand le problème est très mal tranché parce que les juges, ils en profitent pour recevoir les vaches, les chèvres de part et d'autre et ne tranchent pas le problème et tout ça, ça dégénère après. Comment arriver à mettre fin à cela?
Oui, bien sûr, parce que vous savez, pour résoudre un conflit, Et ce jeudi, ce n'est pas important, ce n'est pas vraiment nécessaire de chercher à régler un problème au niveau du conseil familial. Nous regardons un peu les textes, parce que nous avons des textes, et des bons textes d'ailleurs, les plus meilleurs au niveau mondial. Nous regardons nos textes. Est-ce que nous pouvons résoudre nos conflits entre nous à travers les textes? Mais si nous voulons que les conflits soient gérés au niveau du conseil de la famille, il faut appeler par exemple un chef coutumier qui base son pouvoir sur un droit qui est non écrit. Donc il peut trancher un problème sur base de ses humeurs. S'il s'était bien réveillé, sur un bon pied, comme ça s'est dit, il peut par exemple trancher les dossiers en donnant par exemple un gain de cause à une personne qui ne pouvait pas obtenir ce gain de cause. Alors nous regardons un peu les textes, parce que nous ne sommes plus à l'époque traditionnelle où les choses doivent se résoudre, les problèmes doivent se résoudre sur base des XY, parce que même le chef coutumier, il a aussi des penchants quant à ce qui concerne sa communauté d'origine. Et s'il se rendait compte que c'est quelqu'un de sa communauté d'origine qui est lésé, en tout cas avec la naïveté de la chair humaine telle que je l'ai dit au début, il sera toujours obligé d'avoir des penchants pour donner la cause, les gains de cause à la personne qui ne pouvait pas l'obtenir.
Voilà. Et il dit aussi qu'il y a certaines personnes, disons des leaders, ça peut être des chefs religieux ou un député qui est à Kinshasa, mais qui entretient les conflits dans son village. Il s'arrange pour qu'il y ait toujours des conflits et ça lui permet, n'est-ce pas, d'asseoir son leadership dans la région.
Oui, c'est ce que j'ai dit, monsieur, je dis. J'ai dit qu'il y a certaines personnes qui pensent que pour bien vivre, il faut seulement vivre à côté de ses siens, ce qui n'est pas du tout normal. Notre pays est grand. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi lorsque je serai en train de dire que Mobutu quand même a parvenu à faire régner l'ordre dans notre pays. Je sais que Mobutu vraiment c'est une figure emblématique du désordre dans notre pays, mais à un certain moment, il y avait l'administration des non-originaires. Et cela ne posait pas de problème. Celui-là, il pense que lorsqu'il est déjà député, ça veut dire qu'il a la main mise sur tout ce qui ne marchait pas dans son village, veut dire qu'il peut s'imposer et tout et tout. Mais qu'il sache qu'il a un mandat. Lorsqu'il va laisser le pouvoir, l'autre qui viendra va créer aussi un autre désordre pour donner une réponse à ce que lui avait fait lorsqu'il était lui aussi au pouvoir. Et jusqu'à lorsque nous faisons toujours des choses comme ça. Mais nous tournons toujours à rond. On n'apporte pas la solution au problème. C'est un peu ça ce que j'avais à dire par rapport à cette préoccupation.
Oui, Clément Daye nous appelle de Kananga, bonjour.
Bonjour chers compatriotes, merci de m'avoir accordé la parole.
On vous écoute.
Je voudrais juste demander à notre invité par rapport à ce qui concerne vraiment le débat d'aujourd'hui. Il y a des fois, selon nos remarques, deux villages qui peuvent se discuter, je ne sais pas, à travers une source d'eau. Mais il arrive par contre que l'un de ces villages cherche même à interdire les enfants de ne plus traverser pour aller étudier dans un village voisin où il y a vraiment des conflits. Dans ce cas, qu'est-ce que l'invité peut donner comme conseil enfin de ne plus même, puisque c'est un conflit qui concerne les deux villages, mais d'une part, nous voyons comme si ça continue à attaquer même les élèves, soit ce qui continue à interdire à ce que les élèves ne puissent pas aller étudier dans un village voisin. Quel est le conseil que l'invité peut donner dans ce cas?
Alors, la deuxième question partant de son idée
d'introduction. Oh, désolé, Clément n'est plus là en ligne. Bien, il nous parle d'un conflit entre deux villages autour d'une source d'eau. Voilà, ça peut dégénérer et puis les enfants de tels villages ne vont plus traverser de l'autre côté pour aller étudier dans au village voisin. C'est des choses qui arrivent. Comment les résoudre, Kakakatina?
Oui, merci pour la question. L'intervenant, en tout cas, il a posé une question tellement pertinente. Et j'ai toujours dit que pour apporter la réponse satisfaisante à une telle question, il faut non seulement avoir la prudence du chien berger, mais aussi la complicité de la colombe. Pourquoi je dis cela? Parce que vous savez, lui, il vient de nous parler d'un fait qui est déjà visible, qui est déjà palpable dans un village quelque part. Mais si nous pouvons seulement connaître ce qui a fait en sorte que cela arrive dans ce village, ça veut dire les sources ou les causes de ce qui a fait en sorte que cela arrive. Parce que depuis que ce village existe, cela n'existait pas. Mais depuis un certain temps, cela a commencé à exister. Si nous comprenons la cause de cela, on peut facilement apporter la thérapie parce que nous avons déjà très bien diagnostiqué les problèmes en question. Parce que ce qu'il nous a dit, il ne nous avait pas donné les causes. Si on donnait les causes, on pouvait facilement et directement, d'ailleurs, sans foi aux lèvres, lui donner des stratégies qu'ils peuvent mettre en œuvre dans leur village pour pallier à cette situation.
Oui, il y a aussi certains conflits autour des conflits des successions au trône. Le grand chef coutumier est décédé et maintenant il faut le remplacer, il faut un autre chef, voilà. Et puis les descendants de tel ou tel autre se font des guéguerres et parfois ça dégénère. Il y a des morts d'hommes. Et par rapport à tous ces conflits coutumiers, qu'est-ce qu'il faut faire? La meilleure façon de les résoudre, c'est de toujours chercher les causes profondes.
Oui, merci pour la question. Je pense que dans notre pays, nous avons un code de la famille. Et dans le code de la famille, la question de la succession est noir sur blanc déterminée dans le code de la famille. Donc lorsque nous voulons faire les histoires selon nos humeurs personnelles, c'est là que nous embrions tout. Parce que là, dans ce sens, nous allons créer d'embouteillages qui ne pouvaient même pas se créer. Tout simplement parce que nous voulons répondre à une question en dehors de la solution. Et pourtant, la solution est connue. Le problème de la succession, qu'est-ce que le code de la famille nous dit? Qu'est-ce que le testament a dit? Comment est-ce que la succession doit se passer dans telle ou dans telle autre coutume? Et si nous connaissons déjà comment est-ce que les choses doivent se passer, et cela est ancré dans la tête des gens. Les gens maîtrisent cela, ils savent que non, lorsque le roi ne sera plus roi, c'est elle qui le remplacera sur base de tel texte et consort. Là, ça sera déjà bien. Parce que aussi, le problème que nous avons dans notre société, c'est que les gens ne savent pas préparer après leur départ. Quand moi, je ne serai plus là, qui sera là? Moi, je suis là aujourd'hui, mais demain, je ne serai plus là parce que je ne suis pas immortel. À un certain moment, je dois mourir. Mais en mourant, maintenant, qui me succédera? Et on dit toujours un succès sans successeur n'a pas d'importance. Parce que quand vous ne préparez pas la personne qui vous succédera, ça veut dire que vous allez laisser le conflit. Après votre départ, ça sera un problème. Moi, je suis un père d'une famille. Et j'ai une fortune, par exemple, de 100 000 $. 100 000 $ et j'ai, par exemple, 5 enfants. Si je ne dis que je ne partage pas ma fortune à mes 5 enfants, dans un testament, bien écrit, bien notarié, quelque chose comme ça. Mais après mon départ, c'est tout le monde qui voudra prendre tous les 100 000. Vous savez, l'égoïsme, il est dans notre tête depuis l'époque classique. C'est dans notre tête. Et il y a même un auteur, Adam Smith, qui a parlé même de la main invisible en disant que c'est lorsqu'on agit pour son intérêt personnel qu'on peut bien agir. Donc quelqu'un qui est en train de chercher la solution à un problème, si cette solution n'est pas tournée d'abord pour son avantage, il risque de donner la solution au problème des autres et non à son problème.
Bien,
donc,
que
nos chefs coutumiers commencent déjà à préparer leur succession de leur vivant.
Bien, Kakatina, vous dites que la meilleure façon de résoudre un conflit communautaire, il faut d'abord rechercher les causes profondes de ces conflits, les diagnostiquer, et ainsi on pourra apporter la solution. Alors, qui est chargé de faire cette médiation-là? Par exemple, mettre autour d'une table les deux communautés pour chercher à résoudre le problème à l'amiable.
Bon, c'est pourquoi nous, à l'Université de la Paix, pour vraiment rester une Université de la Paix, nous avons introduit dans notre programme un cours de l'éducation à la paix. À travers ces cours de l'éducation à la paix, nous essayons un peu d'enseigner d'abord nos étudiants, parce que notre zone ici, c'est vraiment une zone tellement conflictuelle. Nous commençons d'abord par enseigner nos étudiants, leur apprendre qu'est-ce qu'on peut faire à tout moment qu'il y a un problème. Parce que les problèmes, nous en avons toujours et nous ne pouvons pas en manquer. Ça, c'est d'abord sûr. Même les pays qui sont vraiment en paix au niveau au paroxysme, même ces pays aussi connaissent des problèmes, des troubles, problèmes de crise, ainsi de suite. Nous, à travers notre cours de l'éducation à la paix, qu'est-ce que nous enseignons aux étudiants? Nous leur disons que celui qui veut la paix ne prépare pas la guerre. Comme ça se disait dans les temps, qu'ils visent Pache, Parabellum, quelque chose comme ça. Nous nous disons que celui qui veut la paix ne prépare pas la guerre. Celui qui veut la paix comprend les conflits. C'est en comprenant les conflits qu'il sera maintenant en train de savoir ces conflits à commencer à partir du jour où les habitants de ces villages, on leur avait interdit de ne plus franchir, par exemple, la partie de notre village. Alors, pourquoi cela a été fait? Si cela a été fait et que les autorités étatiques n'étaient pas informées, il faut mettre à la disposition des autorités étatiques cette information parce que c'est eux qui sont chargés d'assurer la sécurité de la population et de l'intégrité de notre territoire.
Bien, ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa, on va terminer avec vous, bonjour.
Bonjour, monsieur Jobi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce thème?
Bah oui, Jobi, c'est un thème assez intéressant. Moi, Jobi, j'ai eu la chance de vivre un peu dans les milieux ruraux, notamment au village, oui. Au Congo central. Et je me rappelle bien, mon papa fut chef de secteur. Tout petit que j'étais, on voyait au tribunal là-bas, on réglait des conflits coutumiers, et surtout des conflits de terre. Mais jamais, jamais, alors aujourd'hui, j'ai vu, moi, les gens se tirer dessus, après avoir tranché, et on prend des armes blanches, on se coupe la tête. Jamais j'ai vu ça. Est-ce que, je voudrais un peu poser la question à notre invité, est-ce que ce n'est pas un problème de culture de chaque communauté? Si tel est le cas, est-ce que ce n'est pas aussi une faiblesse du régime en place? Parce qu'en pareille circonstance, quel devrait être le comportement des autorités locales? Voilà ce que je pose. Parce qu'après tout, si les gens n'acceptent pas la décision ou le verdict et ils commencent à s'entretuer, quelle devrait être la position des autorités administratives?
D'accord. Merci. Monsieur Kakakatina.
Oui.
Vous avez suivi la question de l'ingénieur Mangoyo. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Ben, s'il vous plaît, la personne qui a posé la question, je n'avais pas bien retenu les noms, mais j'ai compris quand même la quintessence de sa question. Bon, vous savez, si nous voulons tout remettre entre les mains de nos autorités, en disant que ceci ne marche pas parce que ce sont les autorités qui ne sont pas en train de bien jouer leur rôle, nous risquons même de mourir sans manger. Nous risquons même de passer la nuit sans mettre quelque chose sous la dent, tout en sachant que ce sont les autorités qui nous apporteront même à manger dans nos maisons. Parce que vous savez très bien, moi je ne veux pas, je ne préfère pas les débats qui tournent autour des autorités parce que ça envenime même les idées, ça envenime les idées, on se retrouve dans un clivage là où il faut défendre les autres et je ne sais pas, s'en foutait des uns. Alors, dans ce sens, je voulais dire ceci. Lorsqu'il y a un problème qui commence déjà au niveau de la famille, au niveau de la société, n'attendez pas à ce que les problèmes grandissent, que les problèmes soient tellement grands au niveau où les problèmes deviennent irrémédiables pour qu'on commence maintenant à trouver la solution à ces problèmes. Parce que je l'ai dit tantôt, les problèmes ne manqueront jamais. C'est pourquoi nous avons introduit le cours de l'éducation à la paix. Et c'est là, ce cours est matérialisé à travers la devise d'or de notre université que nous appelons toujours « Apprendre l'éducation à la paix » pour comprendre les sources des conflits, afin de former un artisan de la paix pour transformer la société qui perd. Donc, si nous mettons juste à comprendre d'abord, apprenons d'abord pour comprendre les sources de nos conflits. Et si nous parvenons à comprendre les sources de nos conflits, même un enfant de 5 ans, il peut nous aider à apporter la solution au problème. Parce qu'il a dit que ce sont des choses qui ne se faisaient pas. On ne tuait pas les gens. Mais il ne comprend pas d'un coup comme ça, on commence à tuer les gens. Est-ce que c'est le gouvernement? Le gouvernement ne peut pas être responsable de ça. Je ne suis pas en train de défendre le gouvernement. Mais je suis juste en train de nous regarder, nous, au niveau de la société. Là où nous sommes dans nos quartiers, dans nos familles. Commençons déjà à imposer la paix, à mettre la paix dans nos familles, dans notre société. Parce que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de la guerre, ça nous le disons. Ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas la guerre qu'on peut dire qu'il faut faire tout qu'il y a la paix, non.
D'accord.
Quelqu'un qui n'a pas eu quelque chose à mettre sous la dent. Mais celui-là, même s'il n'y a pas la guerre, celui-là n'est pas en paix.
D'accord, merci. Merci, monsieur Kakakatina. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes enseignant permanent à l'Université de la Paix, de la RDC, à Goma, au Nord Kivu. Merci et à la prochaine.
Merci, Jody. Merci. C'était un plaisir pour nous de participer à cette émission d'une grande envergure.